Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
Bonjour, voici un nouvel épisode du service politique, le balado des reporters politiques de BFM TV. Nous sommes le jeudi 9 février et nous allons parler, comme lors des épisodes précédents de la réforme des retraites, d'un sujet particulier. Mais qu'est-ce qui se passe chez les Républicains? Pourquoi est-ce le bazar, comme le disent certains d'entre eux? Quel rôle jouent Xavier Bertrand, Laurent Wauquiez, Aurélien Pradié, Éric Ciotti, Bruno Retailleau et les autres? On en parle avec Alexis Cuvillier et Benjamin Duhamel dans cet épisode. Salut tous les deux.
Salut Philippe.
Salut Philippe.
Alors Alexis, je voudrais pas laisser entendre qu'on se répète, mais le 26 janvier dernier, nous avons fait un épisode qui s'appelait, je cite, « Retraite, et si les députés LR faisaient capoter la réforme ?» Nous sommes aujourd'hui, voilà, nous sommes quelques semaines plus tard, mais on est toujours à la même question, et je vais le dire différemment, c'est quoi ce bordel là? Est-ce que vous pouvez me raconter exactement, ou en tout cas, dans les grandes lignes, ce qui est en train de se passer à LR? Personne ne comprend rien.
Alexis. C'est difficile de tout comprendre, tout ce qui est en train de se jouer. Je pense que la différence majeure par rapport à il y a 15 jours, c'est que lorsqu'on a fait le podcast précédent, des oppositions se dessinaient. On estimait qu'il y aurait des députés qui seraient récalcitrants, des députés qui seraient dans une position plus difficile par rapport au gouvernement. Mais je pense que peu de gens imaginaient que ça prendrait cette ampleur-là. D'autant plus que le gouvernement, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, a fait plutôt des petits gestes par rapport aux Républicains, des gestes supplémentaires. Et en fait, Aurélien Pradié, notamment, est resté sur une position intransigeante. Aurélien Pradié, le député du Lot, qui avait dès le départ fixé des espèces de lignes rouges sur la question des carrières longues et qui est dans une espèce de surenchère pour essayer d'obtenir encore plus. Lui le dit qu'il le fait dans un souci de cohérence avec ses propres convictions, mais en ce moment dans son parti il se retrouve très isolé et tous ceux autour de lui l'accusent d'être de s'aventurer sur quelque chose de très personnel et de possiblement mettre en danger carrément le parti Les Républicains.
Pour ceux qui nous écoutent, pour comprendre, en gros, le texte ne peut passer que si deux tiers du groupe des Républicains, en gros 40 Républicains, peut-être un peu moins, vote le texte.
Oui,
en gros, c'est ça.
C'est ça. Il faudrait
pour l'instant, il n'y a pas 40 Républicains qui sont décidés à voter le texte.
Pour l'instant, ça ne paraît pas être évident. Ça paraît pas être évident, même si certains remarquent, par exemple, sur l'article liminaire qui a été voté hier dans la discussion à l'Assemblée, il y a une majorité du groupe Les Républicains qui vote pour l'article. Mais il y a tout de même, je crois, une quinzaine de députés qui votent contre. Et ça, c'est assez surprenant.
Benjamin, tu étais en plateau l'autre jour avec Aurélien Pradié. Comment tu l'as trouvé? Comment tu l'as senti? Il joue une carte personnelle aussi. C'est pas honteux d'ailleurs, mais c'est un moment important pour lui.
C'est un moment important pour lui. On assiste au fond à l'émergence et à la d'un personnage, d'une personnalité qui va compter à droite. Elle peut exaspérer les uns. Jean-François Copé qui lui dit... au siège des Républicains, mais de toute façon, tout le monde sait que tu veux être président de la République.
Comme si Jean-François Copé n'avait jamais imaginé être un jour président de la République.
C'est la parabole de la paille et la poudre. Hein, voilà. On assiste aussi non pas une nouveauté, parce que lui-même, Aurélien Pradié, parfois fait référence à Séguin, mais à un débat qui a toujours eu lieu à droite et qui aujourd'hui a aussi lieu, parce que ça fait 11 ans que la droite n'a pas été au pouvoir et qu'au fond, elle se dit, est-ce que le salut vient dans le moment, dans l'idée de dire qu'il faut apparaître comme un parti de gouvernement et donc soutenir la réforme des retraites, ou est-ce qu'il faut au contraire qu'il y ait une sorte de virage à 180 degrés, peut-être pas à 180, mais au moins bien à 70-80 degrés, parce qu'il faut qu'on soit une droite populaire. Ouais. Et donc Aurélien Pradié, moi je l'ai senti comme ayant envie de pousser son avantage au maximum. Ouais. Il voit qu'il les embête, il en a parfaitement conscience. La difficulté pour lui, c'est que au fond, on a le sentiment que les lignes rouges qu'il fixe, il est susceptible de les faire évoluer, et surtout, on a le sentiment qu'à la fin des fins, il n'a pas envie que cette réforme passe. Et ce qui donc, à la fin, pose forcément un problème politique à des leaders, que ce soit Bruno Retailleau, Éric Ciotti ou Olivier Marleix, patron du parti et les deux patrons des groupes parlementaires, qui, eux, se sont engagés à ce que cette réforme passe, même s'il y a eu un certain nombre de concessions.
Moi, je me souviens avoir fait une interview de lui en, je sais pas, fin octobre ou début novembre, donc il était candidat à la présidence des Républicains, et là, lui avoir soumis cette question que plein de journalistes y ont posé à ce moment-là. C'est-à-dire que, attendez, vous dites que vous êtes contre le passage de l'âge légal à 65 ans, c'était dans le programme de la candidate à la présidentielle Valérie Pécresse, dont vous étiez le porte-parole. C'était dans le programme du parti, de la plateforme du parti pour les législatives. Et il disait, oui, mais vous ne comprenez pas, en fait, que dans le pays, il y a un rapport au travail qui a changé. Et puis il a dit quoi, si on a été élu et pas Valérie Pécresse, c'est justement parce qu'on est plus en phase avec une partie de la France qui travaille, une France populaire et pas seulement bourgeoise, en gros. C'est un peu comme ce qu'il avait en tête. Je veux dire, il dit quelque chose d'assez juste, parce qu'on voit bien que ce doute qu'il exprimait, on le retrouve aussi dans d'autres groupes, au Modem, chez Horizon, chez Renaissance. Au fond, il décrit quelque chose aussi. C'est-à-dire que c'est toute une partie de Français qui se sentent de droite ne se sentent pas forcément en phase avec ce projet. Donc il a levé quelque chose qui existe dans le pays. Il y a un électorat populaire de droite qui avait voté Nicolas Sarkozy, qui avait voté Jacques Chirac, et que peut-être il essaie de représenter. Est-ce qu'il a une chance de rassembler, ou en tout cas de parler à cette droite-là ?
Lui, il est dans une espèce de réflexion un peu sur le temps long, pour rejoindre un peu ce que vient de dire Benjamin, de dire qu'en fait, il va falloir retrouver cet électorat populaire qui, à ses yeux, a été complètement perdu par la droite. Et d'ailleurs, le résultat des élections de l'année dernière le montre assez. Et il pense qu'en ce moment, au sein de son parti, il y a différentes lignes qui s'affrontent. Une ligne qui pense qu'il va falloir récupérer des électeurs qui sont partis chez Macron. Au fond, peut-être la droite, l'électeur de droite un peu plus tel qu'on peut l'imaginer, l'électorat de droite plus bourgeois.
Ciotti, Retailleau, par exemple, simplifier.
Et que ces électeurs-là, il va falloir absolument les récupérer pour envisager de nouvelles victoires dans l'avenir. Alors que Aurélien Pradier, lui, il est plutôt sur un raisonnement différent. Son entourage l'explique. Lui aussi, à quelques reprises, l'a dit. Lui, il pense que la base des bases, ce sera d'abord d'aller rechercher cet électorat, cette droite populaire à laquelle avait très bien réussi à parler, par exemple, Nicolas Sarkozy en 2007. C'est celle-là qu'il faut absolument retrouver très, très rapidement, à qui il faut redonner des signes pour espérer envisager davantage de succès pour les Républicains.
Benjamin, dans BFM Politique, dimanche, vous avez reçu Xavier Bertrand. Mm-hmm. Est-ce qu'au fond, c'est une alliance Bertrand-Pradier ? Est-ce qu'ils ont un intérêt commun ? Est-ce qu'ils sont rivaux, d'une certaine manière, sur ce créneau-là aussi ? Le jeu entre eux ?
Si on pose la question aux uns et aux autres, on a des réponses très différentes. Xavier Bertrand, lui, joue à fond la carte de l'alignement avec Aurélien Pradier, ce qui, lui permet... comment dire,
d'être dans le jeu
parce qu'il est plus connu qu'Aurélien Pradier et qu'il n'est pas parlementaire. Donc en cela, ça lui permet de dépasser l'idée simplement d'aller solliciter l'avis, certes d'un ancien candidat, enfin comment dire, d'un candidat à la candidature et quelqu'un qui est certes président de région mais qui n'est pas dans le groupe et donc ne vit pas au jour le jour les débats. Aurélien Pradier, lui, n'entend pas ça du tout de cette oreille. Au contraire, il est même très fâché qu'on l'associe en permanence avec Xavier Bertrand. Il explique que lui mène... pas sa barque, parce que lui, évidemment, ne présente pas ça comme une aventure individuelle, mais en tout cas, il essaye de faire en sorte qu'il y ait une sorte de décrochage entre son image et celle de Xavier Bertrand. Il ajoute même, quand on lui pose la question, que Xavier Bertrand, lui, fixe encore plus de lignes rouges par rapport à cette réforme. C'est-à-dire que Xavier Bertrand dit qu'il y a les fameuses trois lignes rouges, c'est les carrières hachées, les régimes spéciaux, il faut aller plus vite, et effectivement la question de ceux qui auraient à cotiser davantage que 43 ans, alors qu'Aurélien Pradier lui dit... Et il considère même que Xavier Bertrand... quand on discute un petit peu en coulisses, mais sans doute d'ailleurs un peu trop de conditions pour que ça soit tout à fait lisible. Donc voilà, là on voit bien qu'il y a une sorte de désalignement, même si à la fin des fins, par rapport à ce que disait Alexis, la stratégie de quelle droite est susceptible d'emporter les suffrages dans les 80 années est quand même assez similaire.
Et justement, il y a quelques jours, Jean-François Copé était invité sur BFM TV. Alors lui, il défend une réforme des retraites avec un passage de l'âge légal à 64 ans. Lui a défendu depuis plusieurs mois l'idée qu'au fond, il faut... forcer la main, en tout cas imposer dans un rapport de force à Emmanuel Macron la nécessité d'une coalition, d'une alliance avec une entrée de personnalités républicaines au gouvernement. Enfin bref, lui est sur une position comme cela sur le fond et il il rappelait à plusieurs reprises, plus ou moins clairement, que Laurent Wauquiez est étonnamment discret sur le sujet. Et au fond, disait ou semblait dire que ce qui se joue aussi à droite, c'est l'avenir, comme tu disais, les perspectives à 2027. Il joue quel rôle, il joue quel jeu, Laurent Wauquiez, dans cette histoire ? On parlait tout à l'heure de cet article liminaire, il y a eu aussi des motions de rejet. Et au LR, on regarde beaucoup les votes de députés de la région de Laurent Wauquiez. Et ça interroge beaucoup.
Hier, en comité stratégique des Républicains, lorsque Aurélien Pradier est recadré de l'avis de plusieurs participants, il se retrouve assez isolé, il se lance dans une explication et il dit, selon plusieurs témoins, qu'il se fait remonter les bretelles alors que des proches de Xavier Bertrand et de Laurent Wauquiez ont eu, de ces derniers jours, des positions plus radicales que lui sur le sujet des retraites, d'un air de ce... finalement se défausser un peu sur eux. C'est pas totalement faux, même si c'est vrai qu'Aurélien Pradier, on l'a peut-être plus entendu que ces députés qui gravitent autour de Laurent Wauquiez et de Xavier Bertrand. Mais tu as raison, quand on regarde les votes, notamment ce qui s'est passé à l'Assemblée maintenant que le texte est dans l'hémicycle, c'est très très clair quand on regarde le résultat de ces votes, notamment les députés qui sont proches de Laurent Wauquiez sont sur une position très difficile. Ils votent à contre-courant du reste de leur groupe, et visiblement, ça ne leur fait pas peur.
Pour résumer, mais vraiment caricaturer, est-ce que Laurent Wauquiez est en train d'essayer de faire capoter la réforme, ou est-ce que Laurent Wauquiez est en train d'essayer de peser pour être le faiseur de roi, en tout cas le faiseur de réforme, celui qui détiendra la clé ultime au sein des Républicains et avec la majorité macroniste pour faire passer le texte? C'est quoi son jeu là? Qu'est-ce que vous en pensez?
Je crois que d'abord, rappelons ce qu'avait dit Laurent Wauquiez, c'était, je crois, à l'occasion de ses vœux à la région. Il avait dit au fond.
Discrètement.
Ouais. Très discrètement, on est d'accord, mais il avait dit au fond, cette réforme, c'est pas celle qu'on aurait dû faire, mais compte tenu de la donne démographique financière, il faut faire cette réforme. Donc ça, c'est déjà le point initial. Je crois que d'abord, Laurent Wauquiez est tenu d'une certaine façon par sa proximité avec Éric Ciotti et Olivier Marleix, notamment. Éric Ciotti fait campagne en disant il faut que Laurent Wauquiez soit notre candidat, et Éric Ciotti aujourd'hui fait partie de ceux qui est le plus favorable à cette réforme des retraites et le plus favorable à ce qu'il y ait un deal avec le gouvernement. Je crois ensuite que Laurent Wauquiez, pour le coup, lui pense qu'à terme, il y a un sujet de cohérence. Lui insiste sur ce sujet de cohérence avec ce que la droite a porté. Même s'il lui dit, quand on discute, soit avec ses conseillers, ce qu'on comprend en coulisses, lui aurait plutôt été favorable à une réforme des retraites différente. Il considère qu'au fond, l'idée d'une réforme à 64 ans, 65 ans, décalant l'âge, c'est une réforme du 20e siècle et qu'il faut inventer quelque chose de nouveau. Peut-être aura-t-il l'occasion dans les mois et dans les années à venir de préciser ça. Ce qui se joue pour Laurent Wauquiez politiquement, et c'est en ça que certains considèrent qu'il se planque, c'est le fait qu'il est en train de, et c'est un problème dans l'opinion pour lui, d'apparaître comme celui qui se défausse. C'est-à-dire celui qui se défausse au moment de se poser la question de s'il sera candidat ou non à la candidature. Celui qui se défausse au moment de savoir s'il faut qu'il récupère le parti après la défaite de Valérie Pécresse. Ça fait deux fois où il explique à chaque fois « c'est pas le moment ». En ce moment, il joue le silence, il joue le « je vais voir la France sans caméra ». Bon, très bien, c'est sans doute nécessaire.
Je fais une parenthèse, un des responsables importants du parti m'a dit « il faut quand même penser à Laurent Wauquiez, ça fait 3 ans qu'il se tape toutes les entreprises de la région, il a fait le tour, il va s'ennuyer ». Je referme la parenthèse.
Donc, pour lui, il y a ce moment, et là pour le coup cette forme de paradoxe, c'est qu'il est, même s'il y a certains de ses parlementaires qui sont plutôt honnêtement assez sévères avec la réforme, Fabien Di Filippo par exemple, qui est un très proche de lui, donc d'un côté, il a ses prises de position chez certains de ses proches. Il est tenu par Éric Ciotti, avec qui il a dîné d'ailleurs, je crois que c'était lundi soir, c'est ça Alexis, c'est avec bon, Olivier Marleix à l'Assemblée nationale. Et ce besoin d'essayer de ménager sa parole. Mais à un moment donné, quand on est sur un moment politique qui cristallise autant de tensions, autant de confrontations, autant de clivages, si on veut être président de la République dans 4 ans, à un moment donné, on est aussi à même de se dire qu'on aimerait bien savoir vraiment ce que pense Laurent Wauquiez.
Celui qui évite toutes les balles, hein, c'est parfois l'image que certains dans le parti ont de Laurent Wauquiez et du coup s'interrogent sur sa possibilité de revenir un jour dans le jeu aux ambitions qu'on lui prête et qu'il a certainement au fond de lui.
Et pour ajouter un niveau de complexité, là on parlait de l'Assemblée nationale et de Xavier Bertrand, Laurent Wauquiez, qui sont des barons régionaux extérieurs et en même temps qui regardent de près ce qui se passe à l'Assemblée, mais il y a le Sénat. Et à l'origine, cette réforme, elle est notamment portée par les sénateurs qui, année après année, ont voté au fond une trame de réforme qui est celle dont s'est finalement inspirée Élisabeth Borne. Donc, et on va arriver au Sénat assez vite. Et quand on entend Gérard Larcher ou Bruno Retailleau, eux veulent vraiment que la réforme soit adoptée, et on les voit mal s'accommoder des doutes de Pradier et compagnie.
Ils sont furieux et c'est très visible, audible dans leurs interviews, notamment à la radio ce matin, Bruno Retailleau chez nos confrères de RTL ou Gérard Larcher sur France Inter. Ils ne cachent pas leur agacement, leurs entourages le relaient aussi. Les sénateurs de droite, c'est vraiment un groupe qui fonctionne très différemment du groupe de l'Assemblée. C'est un groupe qui est très discipliné, même s'il y a des sensibilités différentes. Hein, mais c'est vrai que Bruno Retailleau a réussi à accorder un peu tout le monde. Et du coup, comme il y a pour le coup là-bas une vraie cohérence entre le projet qui a été porté plusieurs années d'affilée, cette réforme, ce report de l'âge légal à 64 ans, que Bruno Retailleau estime que le projet d'Elisabeth Borne est relativement proche de celui-là. La Première ministre, tout à l'heure, aux questions au gouvernement au Sénat, elle le dit. Elle dit le projet qu'on vous a présenté, il est proche de celui qui a été au cœur de vos travaux ces dernières années. Donc les sénateurs, ils sont dans une incompréhension complète de ce qui est en train de se passer à l'Assemblée et ils sont parfois extrêmement sévères. Il y a hier des sénateurs qui ont dit ça suffit, il faut que Aurélien Pradier et ses proches rentrent dans le rang, que possiblement des menaces leur soient exprimées.
Ce matin, Larcher à la radio, c'est le message, c'était soit tu rentres dans le rang, soit il faut que tu te poses la question de ton appartenance à notre famille politique.
Compte tenu de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, de l'obstruction, ou en tout cas de la lenteur des débats, il est possible, voire probable, que le texte ne soit pas adopté en première lecture, enfin qu'ils n'arrivent pas jusqu'au vote, et même peut-être pas jusqu'au vote sur l'article 7 principal sur le passage de l'âge légal. Donc le texte va être envoyé automatiquement au Sénat sans avoir été adopté à l'Assemblée. Donc les sénateurs, et notamment les sénateurs de droite, auront la main. Donc en fait, le texte qui reviendra en commission mixte paritaire au mois de mars et sur lequel vont devoir s'accorder sénateurs et députés, ce sera un texte qui aura la patte, la trace des sénateurs de droite, beaucoup plus que des députés de droite. Est-ce qu'en fait, ce n'est pas comme ça que ça va passer, cette réforme, avec une sorte d'accord ou de coalition entre la droite sénatoriale et le gouvernement? Et là, c'est les Pradiers et autres frondeurs de l'Assemblée qui seront un peu ridicules, parce qu'ils n'auront pas compté du tout, y compris au sein de leur propre parti, qui aura signé un accord avec le gouvernement.
C'est en effet une possibilité que ça finisse comme ça et que le texte qui revienne de la CMP à l'Assemblée, de la commission mixte paritaire, qui reviendrait ensuite à l'Assemblée, soit le texte qui est finalement adopté.
Il pourrait aller contre un texte qui aurait été voté par les sénateurs de droite.
On a vu ça sur le texte sur le développement des énergies renouvelables, mais c'était un texte moins essentiel et beaucoup moins symbolique.
Dans l'apport de force politique.
Mais là où tu as raison, Philippe, c'est que... Enfin, après, évidemment, je parle sous le contrôle d'Alexis, mais en l'état, quand on pose les questions à toutes les personnalités là qu'on a évoquées, comme on dit en off, en coulisses...
Aurélien Pradier, Éric Ciotti, Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez, Gérard Larcher...
Laurent Wauquiez, Xavier Bertrand, à la fin des fins, ils font tous le pari que ça passera. Ils font, pour certains, je mets de côté évidemment Aurélien Pradier, le pari qu'au fond, ce petit groupe de frondeurs est un peu surestimé. Moi, j'en ai même un de ceux-là qui me disait, en l'occurrence ce matin... que la carte personnelle d'Aurélien Pradier commençait à braquer un certain nombre de parlementaires qui étaient même susceptibles de passer du vote contre à une abstention. En gros, considérant qu'au début, Aurélien Pradier avait eu la bonne intuition de s'opposer à certains points, mais que maintenant, ça commençait à bien faire et que donc, il ne voulait pas se laisser embarquer dans l'aventure personnelle d'Aurélien Pradier. Donc, je veux dire, après, il faut voir évidemment comment va évoluer le mouvement social, mais si on se situe dans une perspective où globalement, ça faiblit un petit peu, ou à minima, ça continue comme ça, sans qu'il y ait de blocage massif, que le texte continue sa progression, va au Sénat, commission mixte paritaire. La possibilité, effectivement, c'est que les députés derrière ne s'opposent pas à un texte qui a été avalisé par les sénateurs.
Une fois qu'ils auront... supposons que c'est le scénario qui se dessine. Texte adopté, finalement, ce sera joué au Sénat, la droite du Sénat, etc. Qu'est-ce que ça change dans le rapport de force politique à droite après l'adoption de ce texte? Comment est-ce que Éric Ciotti, qui a été élu il y a 2 mois, peut rassembler cette famille qui se sera divisée sur le premier texte important de sa présidence?
C'est certain qu'Éric Ciotti s'aperçoit, je pense, à quel point la présidence de ce parti depuis plusieurs semaines est un exercice extrêmement difficile. C'est un parti qui est bourré de cicatrices, et notamment les nombreuses cicatrices des batailles électorales perdues de l'année dernière. La semaine prochaine, il y a un bureau politique qui se tient au parti. Le comité stratégique hier, c'est un cénacle assez resserré avec vraiment les dirigeants les plus importants. temps. Le bureau politique, c'est quelque chose de plus large. C'est quelque chose qui tranche parfois des questions de fond idéologiques.
Et il y a y compris des personnalités comme François Baroin, Jean-François Copé,
qui participent. Absolument. Et là, à ce moment-là, il y a peut-être, en tout cas, c'est ce que certains espèrent, mardi prochain, peut-être des éclaircissements sur la ligne, peut-être une possibilité de dire à ceux qui sont sur la ligne de Pradier, regardez, là, clairement, vous êtes en minorité et donc il faut faire attention à ce que vous faites et que la ligne majoritaire, bien sûr par le principe simple du fait majoritaire, l'emporte. Mais ça restera tout de même compliqué. Certains estiment que Éric Ciotti ne prendra peut-être pas encore le risque de trop braquer Aurélien Pradier, qui est tout de même son numéro 2 dans l'organigramme et ses plus proches, parce qu'il sait qu'il y a encore le travail parlementaire autour de la réforme qui se poursuit. Donc c'est difficile de voir exactement ce que ça donnera, mais c'est certain que c'est un paysage qui est assez incertain pour lui.
Prenons l'hypothèse inverse. Si le mouvement prend de l'ampleur au point que le gouvernement n'a pas d'autre choix que de retirer le texte, c'est vraiment une hypothèse qu'on ne voit pas forcément se dessiner aujourd'hui, mais bon, prenons cette hypothèse. Aurélien Pradier apparaîtra peut-être comme celui qui a, mieux que d'autres dans son camp, senti l'humeur du pays, senti ce qu'attendait une partie des Français, et en sortira plutôt grandi, non ? Ou est-ce qu'il sera le vilain petit canard qui aura fait capoter la réforme ?
Non, lui en sortira grandi. Xavier Bertrand, dans son éventuel combat avec Laurent Wauquiez pour être le candidat de la droite en 2027, en sortira grandi. Est-ce que c'est le scénario le plus plausible ? Non. C'est compliqué. Et là, pour revenir à la question du scénario inverse, quand on parlait de la capacité d'Éric Ciotti à imposer son autorité, si le texte passe avec l'aval, évidemment, du Sénat LR et du groupe, c'est-à-dire 149-3, ça sera aussi une sorte de marque d'autorité de la part d'Éric Ciotti, ouais, qui derrière se retrouvera conforté aussi dans le cadre de la candidature de Laurent Wauquiez. Rappelons qu'il veut l'imposer, il a dit dans une interview, je crois que c'était au JDD il y a quelques semaines, il va falloir pas trop tarder à sortir du bois. Ce sera une façon, voilà, pour lui de reconnaître, du moins au sein du groupe Les Républicains, que le contingent de ceux qui étaient susceptibles d'être opposés à la réforme n'ont pas été capables de faire capoter ce projet. Après, voilà, tout ça, on en est quand même très loin. On ne sait pas comment ça va aboutir. Si ça passe en 49-3, c'est-à-dire, au fond, si le gouvernement s'est dit le groupe LR n'est pas suffisamment fiable pour qu'on aille au vote, il vaut mieux engager sa responsabilité pour éviter que ça se joue à 3 ou 4 et qu'éventuellement on perde. Enfin, voilà, tout ça est très... Mais le paradoxe dingue de cette période, c'est que les LR sont incroyablement affaiblis. Tout le monde dit, s'il y a une dissolution, ils vont venir avec 20 députés de moins. Et en même temps, là, on en est à parler d'une minorité de minorité qui est capable de faire ou de défaire ce projet de loi autour de la réforme des retraites. C'est ça qui est quand même incroyable dans cette période.
Oui, je vérifie quelque chose sur mon téléphone. Un mot qu'a utilisé Bruno Retailleau ce matin pour qualifier cette situation à droite. Il a utilisé le mot bazar, non, c'est pas ça ? Je retrouve plus mes notes, mais je crois qu'il avait un mot un peu du genre.
Il était remonté ce matin.
Oui, il était très énervé.
Personne ne comprend rien au Schmilblick. Hein.
Ça, c'est de référence à quelque chose que j'ai dit en plateau. Je n'ai pas su prononcer Schmilblick en plateau.
C'est pas facile.
C'est pas facile. Voilà, on pourrait même en faire un sketch, ça serait assez drôle. Merci à tous les deux.
Merci, Philippe.
Merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve dans les prochains jours.